Bienvenue aux informations de 19h sur Radio Zinzine en direct des studios de BAM à Marseille, comme tous les samedis. Donc aujourd'hui, je suis accompagné de Damien.
Bonjour Damien. Salut.
On a Luc à la technique, comme d'habitude. Et c'est parti pour le sommaire de cette édition du samedi 7, dimanche 8 mars. Alors, une fois n'est pas coutume, on va commencer par les éphémérides, puis l'agenda de la semaine. On passera ensuite à l'information locale avec, on revient sur Mars Actu au tapis. On passe ensuite au national avec l'expulsion de la ZAD du testé. On fait du suivi sur cette affaire qui semble peut-être en finir tristement. Un petit sujet sur les pièges à frelons asiatiques qui seraient contre-productifs selon des scientifiques. Damien va ensuite nous parler du Bugalette Brace, où la justice serait peut-être coulée par le secret défense. Enfin, l'actualité internationale avec un sujet sur l'encadrement des loyers en Allemagne. Et Damien nous parlera ensuite de Pepe Mujica, ex-président de l'Uruguay, pour qui les prisonniers de Guantanamo doivent travailler. On finira cette émission par nos invités. Avec un entretien spécial un peu plus long que d'habitude. Léo, Dino et Mathieu du collectif qui organise le Carnaval de la Plaine samedi 15 mars à Marseille. Donc voilà, on attaque de suite par les éphémérides. Damien.
Allez, c'est parti. Donc pour le 8 mars, on va démarrer en 1949. Donc le 8 mars, en 1949, la France reconnaissait l'indépendance du Vietnam. Et en 1965, au Vietnam aussi, 3500 marines américains débarquaient du début donc de la guerre en 1965. En 1983, un personnage sûrement un des plus détestés de France était de nouveau inculpé de crimes contre l'humanité. Il s'agit de Maurice Papon. Donc Maurice Papon, ancien secrétaire général de la préfecture de la Gironde, notamment dans la sombre période entre 1942 et 1944, donc sous l'occupant. C'est d'ailleurs pour ces faits qu'il a été inculpé de crimes contre l'humanité. Mais pas seulement pour des faits de collaboration qu'il est connu, il est aussi connu puisqu'il était toujours au gouvernement jusqu'en 1981, où le volet judiciaire concernant Maurice Papon avait démarré. Il était donc ministre du budget à l'époque du gouvernement Barre, mais il est connu pour avoir, en 1958, comme préfet de police, d'avoir commandé la répression sanglante de la manifestation du 17 octobre 61, organisée par le FLN à Paris, et aussi pour la répression non moins connue de la manif du 8 février 62 qui était organisée par le PCF, par le Parti communiste français contre l'OAS. Et c'est l'affaire qu'on appelle le métro Charonne. Voilà, donc ça c'était en 1983, l'inculpation de Maurice Papon pour crime contre l'humanité. Une autre date, en 1989, la Chine imposait la loi martiale au Tibet suite à 3 jours de violentes émeutes. Et enfin, vous n'êtes pas sans savoir que le 8 mai, c'est la journée... le 8 mars, autant pour moi.
On n'a pas trop d'avance.
On aimerait bien être le 8 mai. On
aimerait bien être le 8 mai.
Donc oui, le 8 mars, c'est aussi la journée internationale des droits de la femme. Et donc c'est une longue histoire, puisque cette journée, la première fois qu'on l'a célébrée, c'était le 28 février 1909, et c'était aux États-Unis. C'était à l'appel du Parti Socialiste d'Amérique. Ensuite, l'Internationale Socialiste l'a célébré le 19 mars 1911, donc pour revendiquer le droit de vote des femmes, le droit au travail, la fin des discriminations au travail. Et la date du 8 mars a été retenue par Lénine, qui a donc décrété cette journée, le 8 mars, en l'hommage des femmes qui étaient les premières à manifester en 1917, au tout début de la révolution russe. Et comment on en est arrivé donc à cette journée internationale? En 1977, à la suite donc du regain féministe des années 70, les Nations Unies officialisent la journée internationale des droits de la femme. Et la première fois qu'elle sera célébrée en France, c'est en 1982. Voilà pour l'historique de cette journée.
Voilà. Alors on passe à l'agenda de la semaine prochaine. Une date annoncée, Damien ?
Alors oui, quelques dates. Alors tout d'abord, on vous annonce que dimanche prochain, donc le 15 mars, il y aura le Carnaval de la Plaine à Marseille. Donc on en parlera un peu plus avec nos invités tout à l'heure. En attendant, mercredi, donc le 11 mars à 19h30 à Casa Consola, donc dans le premier à Marseille, il y aura une soirée d'information sur une rencontre internationale qui aura lieu en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne, contre le fascisme en Europe, la répression policière et la guerre. Donc venez pour en discuter et pour préparer une délégation qui pourra monter à cette rencontre, donc à des mains ou des mines, je ne sais pas comment on dit, dans le nord de l'Allemagne entre le 7 et le 9 mai 2015. Donc la réunion de préparation, c'est mercredi 11 mars à Casa Consola à 19h30. Et Casa Consola, c'est dans le premier, à la rue Consola, dans le centre-ville de Marseille. Voilà pour cette date. Et une autre date importante, et il va y avoir une grande soirée de soutien au Ravi, le journal donc, du Sud, qui est en grande difficulté financière, comme vous le savez. Et donc soirée au Doc des Suds ce vendredi, donc le 13 mars, à partir de 19h. Au programme, il y aura essentiellement des artistes du locaux d'ailleurs. Il y aura IQ DJ 7, Imhotep, qui est donc le DJ de IAM. IQ, je crois que c'est un des DJ de Chinese Man. Il y aura Kantes, il y aura Walkabout Sound System, The Coyote Desert et DJ Big Buddha. Et le tarif est de 17€ sur place et un petit peu moins cher, 15,80€ si vous l'achetez en pré-vente. Et tout ça, évidemment, en soutien au Ravi. Et dernière chose à signaler, il y aura les dessinateurs du Ravi en live, eux aussi, lors de cette soirée. Donc venez nombreux en soutien à la presse libre dans le Sud.
Voilà, alors écoute, on va rester dans le même thème, Damien, je te le laisse sur ta lancée. Parle-nous donc de Mars Actu. On vous disait la semaine dernière que le journal, la plateforme média se retrouvait en redressement judiciaire.
Et oui, donc après l'annonce donc de la mise en redressement judiciaire du Ravi, puis de la Marseillaise, on vous annonçait la semaine dernière la mise en redressement judiciaire du web média Mars Actu, qui existait donc depuis 5 ans. Et ce jeudi, donc le 5 mars, a été annoncé son placement, cette fois-ci, non pas en redressement judiciaire, mais en liquidation judiciaire. Donc cette fois-ci, c'est bien la fin de l'aventure Mars Actu. C'est certainement un gros problème pour les 7 salariés du web média qui seront donc licenciés. Mais c'est pas pour autant qu'ils baissent les bras, puisque le rédacteur en chef Benoît Gilles faisait part de son envie qui est intacte, de remonter sans doute un nouveau média dans l'avenir, peut-être en se rapprochant du Ravi et de Mediapart dont ils se sentent proches. Donc voilà, c'est la fin d'une aventure, mais c'est peut-être pas la fin de l'aventure pour ces rédacteurs qui souhaiteraient relancer quelque chose. On l'espère, et si ça se passe, on ne manquera pas de vous en informer.
Toujours. Allez, on va directement enchaîner avec l'information nationale, donc. On va faire rapidement pour laisser du temps à nos invités après. On va vous parler du testé, la ZAD, dont on a eu de nombreuses occasions de vous parler. On vous regrettera peut-être que nos experts locaux ne sont pas avec nous aujourd'hui. On les embrasse, les experts de la ZAD. Alors, tu veux attaquer, Damien ?
Ah oui, ça s'est passé très vite hier.
Ça s'est passé très très vite.
Ouais, ça s'est passé très vite puisque le Conseil général a pris sa décision, en fait, a voté la construction d'un barrage sur le même site, de moins grande taille.
Conformément aux demandes de l'Europe.
Voilà. Ils ont fait fi de toutes les oppositions et donc ils ont voté ce barrage. Et dans la foulée, ils ont exigé que la force publique, que l'État évacue la ZAD. Alors sans doute d'ailleurs aidé par des militants divers et variés de la FNSEA, etc. On sait que la tension était vraiment, vraiment très très élevée entre les pros et les anti-barrages sur le site depuis quelque temps.
Ces derniers jours, c'était blocus des paysans qui s'en sont pris à des militants ou peut-être même parfois des journalistes, souvent des journalistes plutôt engagés, mais bon, ils s'en sont pris à des gens. On a pu voir sur les pages de la FNSEA, j'ai vu ça, les commentaires des gens sur Facebook qui demandent quand est-ce qu'ouvre la période de chasse aux zadistes, qui disent ces gens-là méritent que 2 balles dans la tête.
Il y a eu des menaces de mort. C'est pas
gros niveau, quoi.
Ils sont déjà venus avec des armes, etc. Enfin, le climat était vraiment extrêmement tendu. Et donc l'expulsion, évidemment, c'est pas faite dans le calme. Il y a eu des échauffourées pendant un bon moment. J'ai pu lire quelque part qu'on avait mis le feu à la métairie. De ce que je sais, il y a eu une 20aine d'arrestations. Donc
21 personnes interpellées.
21 personnes, voilà. Donc ben, c'est triste. Il y aura des rassemblements de soutien un peu partout en France. Alors j'ai pas encore vu passer l'information pour Marseille, mais où que vous soyez, vous pouvez aller sur le site tant qu'il y aura des bouilles. Donc tant qu'il y aura des bouilles. .net ou quelque chose. Et sur ce site, vous trouverez les dernières infos du collectif sur place. Et ça relaie les appels à manifester dans les différentes villes de France.
Pour rebondir sur ce que tu disais de l'évacuation qui s'est pas passée sûrement sans échauffourée, il y a quand même eu cette déclaration du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, qui dit que les 21 personnes interpellées, dont une partie en garde à vue pour attroupement interdit et violence sur agents de la force publique, donc Bernard Cazeneuve donc se félicite de cette évacuation sans heurts, dit-il, dans la République. Et selon lui, dans la République, le seul chemin est celui du refus de la violence. C'est peut-être terminé avec une décision d'ailleurs qui ne convient ni aux militants anti-barrage, ni aux paysans. Personne n'est content vraiment de cette décision qui va se faire. Les écologistes disent qu'une retenue d'eau c'est déjà trop, les paysans disent que la retenue d'eau qu'il y aura c'est pas assez. Donc une bonne décision au milieu pour juste faire avancer les choses, mais sans vraiment les faire avancer, quoi.
Mais la position des écologistes n'est pas très claire, puisque en fonction des cantons, là, dans les élections qui arrivent, ils sont encore en train de faire des alliances avec le Parti Socialiste dans pas mal de cantons.
Oui.
Donc il y a un moment donné où il faudra qu'ils clarifient vraiment
leur position.
Il faut
que la politique politicienne soit toujours plus forte que les causes. Allez, on enchaîne.
On va peut-être s'écouter une petite musique.
On s'écoute une petite musique avant de reprendre.
Et puis on poursuivra avec la suite du programme. A tout de suite.
We'll be right back.
Et on reprend ces informations nationales, toujours en direct des studios de BAM à Marseille. Alors une petite, un petit coup de gueule poussé par des scientifiques, puisque vous le savez peut-être, depuis quelques années, le frelon asiatique a été déclaré ennemi public numéro 1, notamment donc des apiculteurs, puisque ces insectes massacrent les ruches, les colonies d'abeilles, qui n'ont aucun moyen de se défendre contre cette espèce qui a évolué à des milliers de kilomètres d'elle. Donc depuis quelques temps, de nombreux collectifs, des propriétaires de jardins ou de ruches appellent les gens à fabriquer des pièges pour capturer le frelon asiatique, une méthode assez simple avec une bouteille d'eau coupée en deux, une entrée qui permet au frelon de rentrer, mais une sortie trop petite pour lui, donc le but étant d'essayer de décimer ce fléau des ruches. Sauf que des scientifiques, des chercheurs de l'Institut de systématique évolution biodiversité du Muséum national d'histoire naturelle et de l'Institut de recherche à biologie de l'insecte de Tours ont sorti une publication affirmant que ces pièges ont un taux de capture extrêmement faible. Ça se compte en même pas 1% de frelons attrapés et des dizaines d'autres insectes qui se retrouvent quand même coincés dedans malgré les précautions prises, mais vu que c'est avec une éponge avec du miel dessus, il y a forcément beaucoup d'insectes qui se collent dessus. Et au final, donc, plus de dégâts pour le reste de la faune et un effet vraiment très 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 faible sur les frelons et qui pourrait même s'avérer contre-productif puisque les frelons ne survivent en général pas l'hiver. Mais si on se met à éliminer les plus faibles, ben, il y en aura de plus en plus. Donc ces chercheurs donc, invitent les gens à ne pas fabriquer de pièges de manière intensive comme on pouvait le vouloir. Pour l'instant, chez nous, vu que nos abeilles n'ont pas la capacité des abeilles chinoises à faire chauffer le frelon jusqu'à ce qu'il explose, ils font ça comme ça monte à plusieurs centaines de degrés. Et ben la seule solution qu'on peut vraiment trouver aujourd'hui, c'est les poules, puisque les poules qui traînent autour des ruches n'attaquent pas les abeilles, qui sont trop petites pour elles vont se nourrir à la rigueur des cadavres qui peuvent tomber autour, mais le gros frelon asiatique, elles le repèrent et elles vont le picorer directement. Donc voilà, écoutez, pour sauver les abeilles qui sont déjà bien menacées par les pesticides et autres changements climatiques, et pour lutter contre l'élevage en batterie de poulets, et ben pourquoi pas mettre des poules un peu partout pour
et en plein air.
Et en plein air, qui se baladeraient et boufferaient du bon gros frelon au lieu de produits OGM et de farines animales.
Une belle solution, ça, pleine de bon sens.
Voilà. Et un peu des poules partout, c'est pas mal. Quand on a faim, on peut en attraper une, la faire en brochette. Damien, Bugalette Brace alors.
Alors là, c'est beaucoup moins joyeux.
C'est beaucoup moins joyeux.
Là, pour le coup. Alors, le Bugalette Brace, c'est un chalutier breton, un chalutier donc de Loc-Tudy dans le Finistère, qui avait coulé une nuit du 15 janvier 2004, entraînant la mort des 5 marins du bord, qui n'avaient même pas eu le temps de réagir et de mettre les canots à l'eau. Donc voilà, le Bugalette Brace a signalé que ce nom, ça veut dire enfant de Bretagne. Et il y a eu, donc suite à ce naufrage, beaucoup d'interrogations, notamment parce que dès les premières heures après le naufrage, la préfecture maritime de l'Atlantique a annoncé qu'il y avait sur la zone un exercice militaire de sous-marins de l'OTAN. Et donc toute la difficulté a été donc depuis 2004 de prouver que c'était peut-être un sous-marin qui avait coulé le bateau. Alors pourquoi on a pensé ça ? C'était pas le cas au tout début d'ailleurs. Au tout début, les autorités ont dit que le bateau avait été percuté par un autre bateau et que c'était la raison pour laquelle il avait coulé. Sauf que quelques mois plus tard, je crois 5 mois plus tard, après le naufrage, on a remonté l'épave du Bugalette Brace et on s'est aperçu alors de la forme de sa coque qui était extrêmement caractéristique de ce qui avait pu se passer, puisque tout l'avant du bateau était écrasé, non pas cassé, mais écrasé par la pression de l'eau, et que donc manifestement le bateau avait coulé en l'espace de quelques secondes. Il avait été attiré, happé vers le fond en l'espace de quelques secondes. Alors, à moins qu'il y ait des calamars géants ou autres réjouissances sorties des romans de Jules Verne, la seule chose qui peut provoquer un tel naufrage, c'est un sous-marin qui se serait pris dans les filets du Bugalet de Braise et l'aurait emmené au fond avec lui. En plus de l'enfoncement de la coque qui témoigne de cette thèse du sous-marin, il y a aussi une fune qui était déroulée. Alors une fune, c'est un câble de pêche. Hein. Un câble de pêche donc qui était déroulé de 140 mètres de plus que l'autre câble, ce qui n'est pas normal en opération de pêche. Et donc c'est dans ce câble qu'aurait été pris le sous-marin, qui l'aurait emmené. Alors cette thèse, on entend parfois dans les médias que c'est la thèse des familles. Méfions-nous, il me semble que c'est un peu un abus de langage que de dire ça. C'est pas seulement la thèse des familles, puisque le tribunal de Quimper et la cour d'appel de Rennes ont elles-mêmes jugé que c'était un sous-marin qui avait coulé le Bugalet de Braise et que l'identité de celui-ci devait être recherchée. Et ces jugements, ils ont été pris pour la première fois le 31 juillet 2008, confirmés par la même cour de Quimper en 2009, puis en 2010, et enfin par la cour de cassation de nouveau en 2010. Et malgré ça, le procès ne s'est pas arrêté là. Et ce mardi, il y avait de nouveau une audience, et à la grande stupeur, ou pour provoquer la rage des familles, l'avocat général a demandé un non-lieu, donc en niant totalement la thèse du sous-marin. Donc voilà, c'est vraiment la colère et la déception qui a empli les proches des victimes du naufrage à la sortie de cette audience. Je vous en reparlerai peut-être, puisque la cour dira le 13 mai s'il faut des investigations supplémentaires pour mettre fin à l'instruction sur ce naufrage. Et voilà. Donc c'est vraiment un gros problème, je pense, s'il s'avère qu'en France, le secret défense prime sur la justice et sur la vérité.
Merci Damien. On va finir avec deux petits sujets en international. Alors d'abord, une plutôt bonne nouvelle pour les Allemands, puisque le gouvernement a décidé d'encadrer les loyers. Les députés ont adopté le 5 mars une loi qui plafonne les hausses de loyers et qui s'appliquera dans les grandes villes ou les villes étudiantes universitaires. Donc le but étant d'enrayer l'envolée des prix dans la location qu'on peut retrouver dans certaines agglomérations allemandes. Donc avant, les hausses entre deux locations pouvaient atteindre jusqu'à 40% du prix du loyer. Donc ça doublait presque d'un locataire à l'autre. Aujourd'hui, le texte prévoit donc que pour une mise en location, le loyer n'excédera pas 10% du loyer moyen d'usage dans la ville, donc ou le quartier qui est concerné, donc de ce qu'on peut trouver dans la zone. Ça ne s'appliquera donc qu'à certaines villes ou zones qui seront densément peuplées, et qui seront définies par les Länder, les États régionaux allemands, qui ne concernera pas non plus la location de logements neufs ou complètement remis à neuf, mais qui pourra donc quand même toucher pas mal d'appartements à Munich, Hambourg ou Berlin, où justement les hausses de loyer qui se faisaient jusqu'à présent faisaient que les classes moyennes étaient repoussées à la périphérie de la ville au fur et à mesure. Ici, on va permettre quand même de garder un peu en centre-ville. Une autre mise en place de ce projet de loi, c'est que les propriétaires devront régler eux-mêmes les frais des agences immobilières au lieu de, au lieu de le faire passer, de le faire passer par le locataire qui doit lui payer l'agence, c'est bien le propriétaire qui devra rémunérer les professionnels de l'immobilier. Donc de quoi soulager sûrement pas mal de nouveaux locataires allemands. Damien, on finit. Pepe Mujica.
Oui, alors Pepe Mujica, c'est en fait les suites d'un acte qui honore cet homme et ce pays, un acte humanitaire et un acte pour les droits de l'homme. Je veux parler de la décision qu'avait pris Pepe Mujica de proposer à Barack Obama de recueillir en tant que réfugié alors je crois qu'ils étaient sept détenus de Guantanamo qui sont donc arrivés en décembre 2014 en Uruguay lors de leur libération de Guantanamo et qui sont donc depuis réfugiés en Uruguay. Et ils sont suivis en fait par Pepe Mujica, par donc l'ex-président uruguayen. Et ils sont suivis par lui. Et j'ai trouvé un article dans le Courrier International où on expliquait qu'il était passé les voir pour voir comment ils s'accoutumaient au pays et pour aussi leur demander en fait de commencer à travailler, étant donné que ça fait un petit peu plus d'un an qu'ils sont arrivés là. C'est un petit peu une sorte de geste paternaliste. Il allait les voir et donc il leur a dit, là, ça fait un an maintenant, je veux bien que vous soyez traumatisés, etc. Mais il est temps pour vous de travailler parce que c'est en travaillant que vous pourrez vous insérer dans cette société, dans votre nouveau pays qui est l'Uruguay, si vous le souhaitez. Alors, eux, en tout cas pour ces détenus, il semble que ce qui les freine pour travailler, c'est qu'ils sont encore très mal, même physiquement, mais aussi psychologiquement, dû donc à ce traumatisme de l'incarcération à Guantanamo. Il faut rappeler que ces prisonniers ont raconté avoir été torturés quotidiennement, pour certains pendant des années. Donc effectivement, on peut comprendre qu'ils soient traumatisés. Voilà, et dernière chose qu'on peut leur proposer, c'est que s'ils le veulent, l'Uruguay est prêt à les laisser partir et à les laisser quitter le pays. Donc l'État uruguayen est en train de leur faire faire des passeports pour leur permettre, s'ils le souhaitent, de quitter l'Uruguay. Voilà, et on va en profiter pour signaler d'ailleurs que José Mujica n'est plus le président de l'Uruguay depuis le 1er mars. C'est donc Tabaré Vázquez qui lui succède, qui est donc du même parti, le Frente Amplio, un parti de gauche donc, mais qui avait certains désaccords avec Pepe Mujica et qui, donc son élection met des doutes sur la poursuite de certaines réformes qu'avait engagées Pepe Mujica, notamment sur la légalisation du cannabis, qui est effective, mais qui avait pris beaucoup de retard, puisque on rappelle que c'était une réelle légalisation avec l'État qui devait prendre le contrôle du marché et donc produire et vendre lui-même la drogue. Et alors tout ça a pris beaucoup de retard et le programme n'a pas encore démarré. Et manifestement, le nouveau président, donc Tabaré Vázquez, lui est plutôt un anti-cannabis, puisque c'est un médecin aussi, enfin de carrière.
Dommage, ça aurait peut-être pu aider justement les anciens prisonniers de Guantanamo se sentir mieux, on ne saura pas. Allez, on va faire une petite pause musicale et on vous retrouve avec nos invités du collectif du Carnaval de la Plaine pour un entretien spécial. Thank you.
Et alors, ce que vous entendez là actuellement, c'est un son de carnaval. C'est un son qui a été pris dans la rue, alors je sais pas quelle année, si c'était l'an dernier, mais on entend ce brouhaha joyeux et festif du printemps qu'on se languit de retrouver la semaine prochaine. Et du coup, on est avec trois, on va dire, participants, organisateurs du carnaval qui sont venus, vous expliquer d'abord ce que c'est que le carnaval. C'est quoi la tradition du carnaval ?
Alors d'abord, pour commencer, on est des carnavaliers parce que on va parler d'un carnaval qui n'a pas d'organisateur. Ce qui est déjà magique.
Alors, la tradition. Bah, du coup, on va commencer par expliquer un peu, enfin, pas expliquer, mais plutôt voir un peu. On va trouver un petit texte comme ça qui raconte un peu les différentes histoires des origines du carnaval, en tout cas de ce mot-là et de ce que ça comporte, quoi. Du coup, c'est un petit texte qui raconte ça, donc les différents endroits où c'est né, quoi. Voilà. Ouais, c'est parti.
Allez, on t'écoute. On est tout ouïe.
Aujourd'hui, il est célèbre un peu partout dans le monde. Il est pour chacun l'occasion de se déguiser, de se travestir, de porter des masques, de chanter et danser, mais aussi surtout de changer de personnage pour quelques heures, voire quelques jours. Des origines du carnaval sont multiples, et les plus anciennes connues remontent à l'Antiquité. De nombreuses fêtes y étaient organisées, pendant lesquelles l'ordre établi était renversé. C'était aussi l'occasion de faire des choses qui étaient habituellement interdites. Le monde à l'envers, en somme. Des fêtes se déroulaient principalement à la fin de l'hiver pour célébrer le retour du printemps, de la fécondité et le réveil de la nature. Dans l'ancienne Babylone, dès le 2e siècle avant Jésus-Christ, les fêtes appelées Sacé étaient données en l'honneur de la déesse Anaïtis. Durant 5 jours, les rôles étaient renversés entre les esclaves et leurs maîtres. Ainsi, un condamné à mort devenait roi pendant quelques jours avant d'être exécuté. Dans la Grèce antique, les Dionysies honorait quant à elle Dionysos, dieu de la fécondité, du vin et de la végétation. Cette fête, qui durait 5 jours, était l'occasion de défiler à travers champs, de cérémonies théâtrales, de mascarades et de jeux de mimes. Dans la Rome antique, les Saturnales étaient de grandes fêtes célébrées à Rome en l'honneur de Saturne, dieu de l'agriculture et du temps, comme lors des Sacées de Babylone. Les Saturnales permettaient d'inverser l'ordre établi. Pendant plusieurs jours, les esclaves devenaient maîtres et tout était permis. Cette fête symbolisait en fait l'égalité qui existait à l'origine entre les hommes. Au Moyen-Âge, le carnaval était un moment de folie collective, pendant lequel tous les excès étaient permis, et était l'occasion de laisser exploser les fantasmes contenus toute l'année. Grâce aux déguisements, aux masques, chacun pouvait oublier pour un temps la misère, la maladie, la souffrance. Chacun pouvait changer de condition. Comme toute fête, au sens plein du terme, le carnaval était la négation du quotidien. Symbole même de la fête populaire, il instaurait un temps pendant lequel il était possible de s'affranchir des règles et des contraintes du quotidien. Il permettait ainsi d'outrepasser les règles morales et sociales. Dans un premier temps, l'Église condamna les manifestations carnavalesques héritées et surnaturelles romaines. Puis, ne pouvant s'y opposer, elle les récupéra. Réjouissance, cavalcade et ripaille culminaient lors du Mardi Gras, ultime jour de chair avant le carême. Temps de jeûne. Carême faisait appel à la spiritualité de l'homme, carnaval s'adressait à son être charnel, pétri d'instinct et de passion. Le carême exigeait le jeûne, carnaval autorisait toutes les outrances. On dansait dans les églises, les prières étaient dites à l'envers, un âne y officiait, les riches se transformaient en pauvres, les hommes se déguisaient en femmes, les enfants s'octroyaient les droits d'adultes. La réserve qui régissait habituellement les rapports sociaux disparaissait. Au terme de célébrations, les péchés et les ténèbres de l'hiver étaient livrés au feu purificateur en brûlant un mannequin qui représentait symboliquement sa majesté carnaval. Carnaval est mort, mais il est destiné à renaître.
Donc, vaste programme donc, qui nous dit bien que le carnaval, c'est un moment pour décompresser et faire un peu ce qu'on veut. On a vu l'an dernier que ça se passe pas forcément comme ça à Marseille. C'est pour ça, du coup, vous lancez.
Bah, c'est assez marrant parce qu'il y a ce qui se dit un peu dans ce texte, c'est qu'il y a plusieurs, Donc c'est quand même un moment qui venait quand même en conflit avec des principes de morale, des gestions de l'ordre et tout ça. Et du coup, c'est quand même un moment où sûrement que l'Église à un moment a dû se poser la question de comment éradiquer le carnaval et elle a préféré le récupérer. Du coup, ça pose un peu la question aussi de est-ce que le carnaval, ça serait pas possiblement aussi une soupape, quelque chose qui permet de décompresser pendant un moment, de lâcher tout ce qu'on a pour pouvoir revenir après à la normale. Mais bon, voilà. Après ça, on peut se le réapproprier de la manière qu'on veut, quoi. Et c'est pareil aussi pour le carnaval du Brésil, quoi, où apparemment les intrudos, donc c'était des fêtes où la population se déguise, se masque, se jette des trucs dessus. Et c'est un truc qui où on n'en voit pas trop l'origine, quoi. C'est quelque chose de très très ancien et qui vient bien avant la religion chrétienne, quoi. Du coup, c'est quelque chose qui est vachement inspiré des fêtes païennes. Un peu partout. Apparemment, les archéologues ont même retrouvé des masques au moins 1500 avant Jésus-Christ.
Ah ouais.
Voilà. Et alors donc justement, c'est un carnaval sans organisateur, et pourtant c'est quand même un petit peu organisé. Est-ce qu'on va voir des masques, est-ce qu'on va voir des chars, est-ce qu'on va voir un caramatan cette année ?
Eh ben, effectivement, pour parler du carnaval de Marseille, effectivement, il se passe plein de choses, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas d'organisateur qu'il n'y a pas plein de choses qui sont possibles. Peut-être d'abord, avant de se lancer sur le carnaval de Marseille, comme ça, vu que je sais pas si les gens ont déjà entendu parler du carnaval de Marseille. Nous, on a l'impression que le monde entier a déjà entendu parler du carnaval de Marseille parce que c'est juste génial. Donc, je précise, c'est le carnaval autonome de Marseille.
Oui, c'est pas le carnaval de Gaudin, quoi, pas celui du Vieux-Port.
Voilà, c'est pas le carnaval de la ville, c'est le carnaval autonome. Oui. Et on peut peut-être raconter un peu vite fait l'historique de cette histoire-là. Nous on était bien plus jeunes, hein. On est un peu on fait partie des bandes de jeunes qui ont découvert ce carnaval et qui l'ont adoré. Mais avant nous, il a toute une histoire. Alors, quelque part ça. Donc, le carnaval de Marseille. Enfin, Marseille, plutôt la municipalité de Marseille, vient de lancer son néo-carnaval. Et pas mal de gens, donc là c'est Alessine Umbria qui raconte. Du coup, je vais vous le lire, parce que ça me paraît plus simple.
C'était il y a quelques années.
Ouais, il le cite dans son texte. À la même époque, à Marseille, la municipalité venait de lancer son néo-carnaval. Et nous étions quelques-uns à l'avoir mauvaise. Quand 5 ans après, s'est créée la Plaine sans frontières, qui invitait systématiquement à occuper la plaine, repas de quartier, sardinane du 14 juillet, fête du quartier, l'idée de créer un carnaval s'est imposée d'elle-même. La première édition a lieu en 2000, mais il n'y avait pas de procès, qui me paraissait quelque chose d'important, qui va apparaître après, le procès du carnaval va apparaître en 2002, et justement, parce que la nécessité s'était imposée d'elle-même en réponse au réaménagement autoritaire et sécuritaire de la plaine, et cette année-là, le Caramontran était un port de 2 mètres de haut, drapé d'une écharpe tricolore avec un écusson, mairie du 4e et du 5e. Une personne employée, la dite mairie, nous a confié plus tard que Bruno Gilles avait été très affecté d'avoir été ainsi représenté, puis brûlé sous les imprécations de la foule. La référence, quand nous avons créé le carnaval, avec celle de Mur et celle du carnaval indépendant de Saint-Roch à Nice, était criante. Bon, en gros, c'est ça, l'histoire, c'est que ça commence par un groupe de gens qui se regroupent autour de la plaine, autour d'un truc qui s'appelle la Plaine sans frontières, pour garder un territoire qui était un territoire occupé par les habitants, etc., etc. Et puis, plus le raménagement de la ville arrive, plus toute la vie de quartier, toutes les possibilités couvraient cette place, un peu, quelque part, je dirais, offerte, désertique, au sens où pas réaménagé, pas pensé, pas tout est pensé. Les gens, ils pouvaient construire une vie, inventer des choses. Et petit à petit, réurbanisation, gentrification, etc., tout ça disparaît. Et naît en 2000, du coup, l'idée de faire ce carnaval par cette bande de gens qui sont des bandes de jeunes et des bandes de potes qui pensent le monde à cette époque-là et qui, du coup, lancent le carnaval de la plaine. qui lui-même va du coup subir plein d'histoires, donc il va effectivement de plus en plus s'attaquer à la ville, et la ville va aussi petit à petit se rendre compte de la puissance que peut avoir en fait un carnaval, au sens de c'est un moment où les gens se réapproprient la ville, se réapproprient la rue et s'organisent ensemble en fait. Donc quand bien même il n'y a pas d'organisateur, c'est vrai, mais les gens s'organisent ensemble, donc c'est-à-dire passent du temps ensemble à préparer. Et les festivités, elles sont le 15 mars cette année, dimanche 15 mars, c'est une journée et une nuit, mais en fin de compte c'est bien plus de temps, quoi. Il y a toute la préparation du carnaval, les assemblées qui y sont liées, les déguisements, les masques, qu'est-ce qu'on a envie d'y dire, voilà, etc. etc. quoi.
Les habitants du quartier, est-ce qu'ils sont très demandeurs de ce genre de fêtes et de participer à ces fêtes, de participer à la préparation du carnaval?
Bah, c'est difficile de parler pour les habitants du quartier. Je pense que comme dans tous les quartiers, il y a des gens qui vont y être réticents, qui aimeront pas le bruit, qui aimeront pas sortir dans la rue à part pour aller acheter des baguettes. Et puis t'en as d'autres qui bien sûr viendront au carnaval, et chaque année il y a quand même pas mal de monde qui vient, et ça fait depuis les derniers que j'ai pas fait tous ceux depuis le début, parce que c'est quand même le 16e carnaval indépendant de la plaine, et chaque année il y a quand même l'année dernière on parlait de 400 personnes, du coup c'est quand même pas mal de monde, mais effectivement il y a aussi pas que des personnes du quartier, quoi, il y a aussi des gens qui viennent de tout Marseille pour ce carnaval.
Apparemment, tout le monde en parle en ce moment. En tout cas, j'ai l'impression que les années précédentes, c'était plutôt quelque chose qui se faisait de l'ordre de « Ah, des gens vont coller des affiches, des gens ramènent du vin et de la farine et on fait avec ce qui est là. » Alors que, comme cette année, ça a pris une ampleur tout à fait différente. Il y a eu beaucoup plus d'affichages, beaucoup plus de messages qu'on tournait. Et bon, moi, c'est ce qu'on m'a dit, c'est un peu ça, quoi. Que là, en ce moment, tout le monde parle de ça.
Oui, parce que du coup, vu ce qui s'est passé l'an dernier, avec une violente répression quand même contre le carnaval, j'imagine cette année, il prend une tournure de résistance face aux institutions, peut-être. Et comment les gens et comment vous placez là-dedans, vous êtes arrivé là-dedans en opposition à ce qui s'est passé ou...
Et ben là, je crois que l'idée principale justement du carnaval de cette année, c'était de se dire que pour que le carnaval il puisse continuer à exister, il fallait absolument qu'il grossisse pour plus être menacé par des forces effectives de police, quoi, qu'elles soient numéraires ou, enfin, en tout cas, il faut que nous on arrive à les dépasser par le nombre par la joie, par la force qui va se dégager de ce truc-là, quoi.
Parce que du coup, ce qu'il faut, je sais pas si tout le monde est au courant, mais effectivement l'année dernière le carnaval a été attaqué. Ça fait depuis 3 ans que la police se montre de plus en plus présente à l'occasion des carnavals indépendants de la plaine. Et du coup, depuis 3 ans, il y a des équipes de BAC, de 15 BAC, deux équipes de 15 BAC qui sont en civil avec le flingue à la ceinture, principalement des gens déguisés, des gosses, des batailles de farine. C'est un désordre, certes, mais quand même... qui permet pas, en tout cas, l'utilisation d'armes à feu, quoi. L'année dernière, depuis 3 ans, à chaque fois, ils essayent d'intimider tellement que personne n'ose se rendre au lieu de rendez-vous, quoi. Mais à chaque fois, le carnaval se fait quand même, et... disons le dispositif policier est quand même déjoué, quoi. Et l'année dernière ils ont décidé d'attaquer parce qu'ils voulaient pas que le feu se fasse, parce qu'ils trouvaient que le feu c'était un argument suffisant pour dire que ce carnaval était illégal, alors que de fait il a jamais demandé d'autorisation. Et ils ont décidé d'attaquer et ils ont été bien repoussés. Les gens ont décidé que non, c'était pas à la police de décider quand le feu se terminait. Du coup, ils ont été repoussés. La lance à incendie des pompiers a été percée. Et vraiment une très belle résistance. Du coup, cette année, effectivement, l'objectif, c'est comment réussir à faire en sorte que la police se sente même pas d'intervenir, quoi. Que lui faire comprendre que ce carnaval-là... Et plus elle le réprimera, plus il y aura du monde et plus il y aura et moins ils auront la force de du coup qui nous laisse tranquille au fait. On fera carnaval, c'est tout.
Ouais, il faut rappeler que l'an dernier, il y a quand même eu 8 arrestations, dont 7 qui ont pris des peines de prison, que ça soit du ferme ou du sursis. Mais il y en a plusieurs qui ont reçu des peines de prison ferme en comparution immédiate le lendemain ou le surlendemain du carnaval, quoi.
Emprisonnement et travaux d'intérêt généraux.
Ouais, voilà. On peut se retrouver au Baumettes pour un carnaval, quoi. Donc. Effectivement, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le but, c'est que la police n'intervienne pas. Et que je trouve ça très bien ce que vous racontez, de dire que plus il y aura de monde et plus il y aura de joie. Et espérons-le, au moins ils seront tentés d'intervenir, quoi.
Aussi peut-être pas mal de se dire que ce qui se passe autour de ce carnaval, c'est aussi un truc où le moment de carnaval, et c'est pour ça qu'on revenait aussi sur l'origine du mot carnaval, c'est parce que il s'agit pas justement de faire que ce carnaval il soit tourné vers les flics, mais bien tourné vers nous, en fait, vers la fête, au sens de aujourd'hui on voit bien que la plupart des fêtes, comme on le disait tout à l'heure, elles sont cadrées par les institutions, qu'elles sont là pour nous tenir. Donc on a une part de loisirs, de possibilités de loisirs, mais tout est bien encadré et faut surtout pas que ça déborde. Le carnaval, c'est le moment de débordement. C'est le moment où plus rien n'est à contenir, tout explose, nos démons sortent, nos vrais visages finalement, ou nos faux visages, on sait pas trop. Et du coup, t'as un espèce de moment où, qui aussi cette année s'est discuté pas mal dans l'assemblée du carnaval, donc il y a un mélange de gens du quartier, de gens intéressés par l'idée du carnaval, de certains anthropologues du carnaval, de plein de gens assez différents, c'était de se dire, on va pas les laisser gagner, donc ne pas les laisser gagner, c'est ne pas se tourner juste vers eux. Donc ne penser qu'à travers eux, qu'est-ce que va pouvoir devenir le carnaval, mais bien penser au contraire comment nous on prolonge la fête, ou comment nous on fait la fête, mais sans se dire c'est eux qu'il faut qu'on repousse, quoi. Ce que nous on veut, c'est avoir cette ville une nuit. Avoir cette ville une nuit, ça veut dire faire un énorme feu, danser autour, et on ne pourra pas confondre qui attaque et qui fait quoi, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, c'est-à-dire que souvent on pourrait avoir l'impression qu'il y a des démordements parce qu'il y a des gens qui cherchent la merde ou je ne sais pas quoi, mais la vérité c'est que cette fête-là, on est tourné vers la fête, du coup il y a vers la fête et le débordement, donc évidemment il n'y a pas d'équipe de sécurité qui contrôle qui que ce soit, mais c'est eux qui viennent chercher, l'heure d'extinction, il n'y a aucune confiance, c'est aucune possibilité, comme si on n'était pas capable d'éteindre un feu. Qui se fait quand même sur un parking où il n'y a absolument rien d'autre que du bitume, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, peut-être vous pouvez me dire.
Ouais, mais. C'était très compréhensible.
Vous n'êtes pas un mouvement contestataire, quoi. C'est ça. Pour faire la fête. Et...
Oui, c'est dans le sens où simplement le carnaval, c'est une force positive, quoi. C'est une force positive et qui vient pas. Qui vient pour contester tellement de choses au fait que c'est même plus. C'est dans sa forme de vie que le carnaval il conteste déjà, parce qu'il est quelque chose, quoi.
Si je comprends bien.
Et du coup, ce qui est vraiment, je voulais revenir, c'est ce qui est vraiment beau au fait dans la résistance de l'année dernière, c'est qu'en plus, suite à ça, c'est la première année cette année où pour l'organisation du carnaval, il y a des assemblées qui sont publiques et où n'importe qui peut s'y rendre avec des affiches dans la rue et où il y a. 40 voire 50 personnes qui discutent ensemble de qu'est-ce que sera le carnaval et qui s'organisent pour que ce soit fait, et c'est aussi je pense parce que des gens ont décidé de, parce que les autorités ont décidé de réduire ce carnaval, du coup il y a plein de gens qui se sont mis ensemble pour dire non, c'est pas possible, quoi, ils le réduiront pas.
Donc là on a parlé un petit peu donc de la police, et en fait ce qu'on espère, c'est que on en a parlé là à cause de l'an dernier, et on espère qu'à l'issue de cette année, on n'ait pas à parler de police, puisque ça n'a rien à faire au milieu du carnaval, en fait.
Bah, ils sont trop moches et ils sont mal déguisés.
S'il n'y avait pas eu ce cas, voilà, s'il n'y avait pas eu ce cas l'an dernier, je pense qu'on n'en aurait pas parlé et que ça serait tant mieux, quoi. Donc espérons que l'an prochain, on parlera pas de police, enfin, on parlera seulement du carnaval et de la fête.
En même temps, moi je me dis ouais, on n'a pas envie de parler de police pour ce moment-là, et en même temps, le carnaval, comme n'importe quoi, vient s'inscrire dans une réalité, et la réalité de notre monde, quoi. Donc quel monde d'aujourd'hui, quoi. Donc je trouve ça, j'ai envie de dire oui, moi on en parle. Moi, s'ils pouvaient tous disparaître, moi j'en serais pas malheureuse, mais le fait est que même si on ne veut pas en parler, de fait, toute fête, c'est ça qu'on disait, c'est-à-dire que tu as le carnaval, mais toute fête ou toute chose qui est impulsée par les habitants eux-mêmes, en fait, par des gens eux-mêmes, et qui cherchent pas à s'institutionner, c'est de manière générale réprimée, quoi. Donc ne plus en parler, c'est parce qu'on n'a pas envie d'en parler, parce qu'on a envie de justement faire grossir ce qui nous plaît, nous, plutôt que de parler de sans cesse de l'ennemi ou de ce qui nous plaît pas. Mais de fait, on en reviendra à en parler. Parce que ils sont toujours là, je crois qu'on fait quelque chose. Mais je pense que surtout ce dont on a à parler, c'est ce que moi j'ai trouvé aussi fou dans cette année, donc après ce qui s'est passé et la répression du carnaval de l'année dernière, c'était de voir en fait que des gens de quartier, donc c'est des vieux, des vieilles, qui se retrouvent ensemble pour discuter, et qui se retrouvent à discuter de que faire contre la police. Et ça, c'est quand même un peu magique. Je veux dire, dans les années 2015, à l'ordre où tous les gens sont séparés, etc., etc., de voir des gens qui se retrouvent ensemble pour discuter, de se dire oui, bon, bah, il faut pas faire dans la provocation, du coup, faut pas les attaquer non plus, oui, mais faut pas qu'on se laisse faire parce qu'on veut garder quand même l'idée du carnaval et il y a un feu, etc., etc. Et du coup, ça, c'est quand même exceptionnel parce que ça crée finalement des gens qui se retrouvent aussi pour discuter finalement du monde et de comment ils se trament, quoi.
Ça, c'était une retranscription des discussions de l'Assemblée du Carnaval.
C'est quand même fou, quoi. Moi, je trouve ça magique, quoi.
Peut-être ce qu'on peut dire aussi, c'est que après les arrestations et donc l'emprisonnement des gens, il a fallu aussi assurer pour ces gens-là. En tout cas, il y a eu une réponse collective, ou en tout cas de petits groupes de gens qui, à leur façon, ont filé la main aux gens qui étaient emprisonnés, et que l'Assemblée du Carnaval, elle, donc il y a eu par exemple des concerts de soutien qui permettaient après de faire un peu de sous pour permettre aux prisonniers de continuer, etc. Mais il y a aussi eu l'Assemblée du Carnaval qui s'est un peu saisi du truc aussi pour organiser un loto sur la plaine. Et du coup, il y a un petit extrait audio qu'on peut peut-être envoyer.
Mais alors, du coup, c'est marrant parce que c'est une manière de faire un petit peu d'argent pour les avocats, pour cantiner, tout ça. Mais c'est surtout une manière aussi de faire exister, de faire revivre ce moment-là qui s'était scindé par des articles dans la Provence qui traitaient les carnavaliers comme
des radicaux, complètement.
Comme des radicaux, enfin, encore des termes de journalistes qui veulent absolument rien dire. Et donc de revenir comme ça au grand jour et de dire non, mais au fait, on est toujours là et on n'est pas caché, quoi, on n'a pas peur, on est là. Et dans un truc assez marrant, quoi, ils ont fait un loto en plein sur la plaine.
D'ailleurs, on va vous passer peut-être un petit extrait du loto pour vous mettre dedans un peu. Ça dure quand même un petit peu de temps, mais c'est marrant. On entend les gens du quartier et ce petit loto qui se déroule sur la plaine.
Ben, j'habite dans le quartier, donc voilà, je suis venu déjà parce que c'est bien de faire des trucs comme ça de temps en temps, d'occuper un peu les espaces publics, faire des bouffes comme ça, mais aussi par rapport donc, au carnaval de la plaine qui a été attaqué par la police là, en mars. Et donc voilà, c'est aussi un soutien au carnaval de la plaine, aux gens qui ont été arrêtés, certains ont fait de la prison ferme, et aussi préparer celui de l'année prochaine, parce que ils auraient bien envie que ça se fasse plus, et donc c'est aussi montrer que voilà, on lâche pas le morceau, et que voilà, il faut qu'ils s'attendent qu'en mars prochain elle sera encore là.
Step in the water. pas fini, hein, je vous le dis.
Ah ouais.
On a pas commencé.
Ça va, ça sort. Bienvenue à tous et à toutes. Merci d'être venus en foule au grand loto de soutien au carnaval indépendant de la Plaine Noailles. On est chez nous. Ça, à Comboulègue. Bon. Alors on vous explique la marche à suivre, parce que certains, c'est peut-être le premier loto de leur vie. On imagine l'émotion, l'intensité de l'émotion.
Le loto à Marseille, c'est une tradition, enfin en Provence en général, quoi. Il y a tout un truc autour de ça, quoi. En général, c'est plutôt décembre-janvier. Mais là, bon, situation d'exception, loto exceptionnel. Ça fait quand même 2 ans que le carnaval indépendant de la Plaine Noailles est l'objet d'une pression policière insistante. L'an dernier, ils nous ont mis une putain de pression, ils voulaient pas nous laisser défiler, ils voulaient pas nous faire le feu, mais on a quand même réussi à faire ce qu'on voulait. Et cette année, ils s'étaient décidés à nous punir, quoi. Et donc voilà, les CRS là-bas ont chargé le carnaval là, à la fin, quand il y avait le brasier, quoi, quand le caramantran cramé, comme on le fait toujours depuis 15 ans. Hein. Ça fait 15 ans qu'on le fait, on demande une autorisation à des gars, on est chez nous, mais il n'y a jamais eu de problème, quoi. Les problèmes, ils sont là quand ils arrivent. Hein. Alors ils se sont invités dans le truc, ils ont tapé tout le monde, ils ont balancé des gaz lacrymo, alors qu'il y avait des minots, il y avait des vieux, enfin, ouais, histoire de fou, quoi. Le 34, Montpellier, la surdouée, la ville des gens intelligents. Le 17, la révolution russe. Allez, Bouleg. Hein? Le 42. Le 42, c'est quoi ça, le 42? Le 84, George Orwell, qu'est-ce qu'il dirait s'il revenait? Voyez la
bataille
en bas sur les gaz. Le 25, la moitié de 50. Toujours pas de carton plein.
Oh putain, là on est dans le patch, là. Il y a le boulier qui est constipé. Et il a lâché quand même le quoi. Tu m'étonnes, il voulait pas le lâcher. Le 75, le vilain numéro.
Alors, cache-moi. 22, les condés.
Le carnaval, ça remonte aux Grecs. Ils sont revenus à Marseille nous l'amener. Mais définissons le mieux. Comme Boris Vian. On est toujours déguisés. Alors, il n'y a qu'à se déguiser. Comme ça, on n'est plus déguisés.
Carnaval de Dunkerque. C'est à la fois un exutoire et puis aussi une façon de mettre en perspective un certain nombre de problèmes.
Le carnaval a toujours eu, ou en tout cas il a fréquemment eu, cette dimension contestataire. Hein. En prenant dès le XVIe siècle, on a les cançons d'Ocaraterum du carnaval de Aix, les seuls textes qui nous soient parvenus qui sont en occitan, qui sont des textes d'une virulence extrême. Quoi. Des textes de contestation sociale et politique contre les dominants, contre le pouvoir en place, qui sont extrêmement virulents, hein, c'est une tradition. Le procès, la tradition du procès aussi, cette tradition contestataire. Nous, on l'a prise du carnaval de Murs, hein, dans le Haut-Vaucluse, où il y a des gens qui font vraiment un carnaval à l'ancienne, ils font le procès, en Occitan d'ailleurs. Ils font le procès, chacun vient déposer ses doléances, et ça, c'est un truc qui a toujours existé. Alors ouais, il est un peu surinvesti, probablement. Probablement, hein, parce que Marseille, c'est quand même une ville qui a perdu beaucoup, qui a perdu ses fêtes populaires. Hein. Maintenant, la fête populaire, c'est quoi? C'est les virages au stade, quoi. Et en même temps, il y a le pseudo-carnaval de la ville, qui n'est pas un vrai carnaval, qui est juste un défilé costumé des minots, qui n'a pas de dimension contestataire, bordélique, tout ça. Donc nous, on s'est un peu inspiré de l'exemple du carnaval indépendant de Saint-Roch, à Nice. Carnaval de Montpellier, d'autres cas, le carnaval de Murs dans le Vaucluse, d'autres carnavals en Italie, en Grèce, on s'est inspiré de tout ça. Le 83, c'est le mort ça, la Seyne-sur-Mer. Maximum respect pour tous nos amis de la Seyne-sur-Mer. Écoutez, il doit le plus tomber.
Et vous êtes toujours à l'écoute des infos de Radio Zinzine et de Radio BAM. Et en ce printemps, on parle carnaval et on va continuer un petit peu cette émission. Et on voulait justement vous annoncer les différents rendez-vous autour de ce carnaval qui aura lieu donc le 15 mars.
Ok, ouais, c'est ça, le 15 mars. Et du coup, bon, moi, ce que je vais vous dire là, c'est pas du tout exhaustif. C'est vraiment une petite sélection que j'ai faite, enfin que j'ai trouvée. Et sinon, il y a des affiches partout dans Marseille. Il y a beaucoup d'infos sur Internet. C'est possible aussi d'écrire à Assemblée de la Plaine, Assemblée de la Plaine, @gmail.com. Et donc, alors, petit truc que j'ai remarqué, au Vidéodrome 2. J'arrive pas à jumeler avec le micro.
Faut pas esquiver le micro.
Au Vidéodrome 2, samedi 14 mars à 20h, il y aura une projection de film. D'abord, un film sur Diane Vort d'Armory Corinne, qui dure une quinzaine de minutes. Et ensuite, Les Nains aussi ont commencé petit, d'Herzog, qui est un film un peu flippant, mais quand même très bien à voir. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Ah oui, donc samedi soir, donc la veille du carnaval, à La Torpille, qui est un squat qui se situe à La Joliette, au numéro 23 de la rue des Phocéens.
Les anciennes affaires maritimes, pour ceux qui connaissent.
Ouais. Il y a un bal masqué. Du coup, bon, faut faire attention à pas trop se la mettre avant le dimanche, parce que sinon ça va être dur. Qu'est-ce qui se passe d'autre? J'ai vu qu'il y avait vendredi, en fin de journée, un atelier costume et un apéro carnaval. Donc ça, c'est le 13 février. Et les répétitions des chants à l'Oustaou, dans leur nouveau local. Et puis, à la ressourcerie, donc ça, c'est 53 rue de Brice, la ressourcerie Jadis Sigor. Dimanche à 18h, il y a apéro et projection ensuite à 19h de différents films et extraits de films sur le carnaval.
C'est ce dimanche-là qui vient.
Ouais, dimanche qui vient. Oui, c'est un peu brouillon. Et sinon, donc, à partir de lundi jusqu'à vendredi après-midi, à la ressourcerie, il y aura aussi des gens qui seront là toute la semaine, de 11h à 18h, pour faire des ateliers, un atelier masque, costume, construire des totems, etc. Et donc, l'idée, ce serait, enfin, une des idées en tout cas, ce serait que les gens qui ont envie de se faire un masque ou un costume, soit ramènent du matériel tel que du plâtre, des bandes plâtrées, du tissu. Là-bas, il y a des machines à coudre, et puis même de ramasser des trucs dans la rue, du tissu, des trucs qu'on peut trouver pour se faire des costumes et des masques. Et puis bah voilà, les gens qui veulent venir passer du temps, ils peuvent ramener un peu à manger et on prendra des repas ensemble et tout ça.
Et aussi, s'il y a des gens qui ont envie de discuter du carnaval, c'est un moment où ça sera ouvert et où ce sera possible de préparer ça, quoi.
Ouais. Et du coup, qu'est-ce que je voulais... Ah oui, et du coup aussi, dernière info, que la dernière assemblée avant le carnaval, donc la dernière assemblée du carnaval, ce sera lundi 9 mars à 18h30 à La Rouille, voilà, au 82 rue Nau, et que du coup c'est un bon moment de passer aussi pour avoir les dernières infos sur comment ça va se passer.
Voilà, mais...
Ouais, du coup, si on pouvait un peu revenir sur qu'est-ce qui fait que vous vous investissez dans ce carnaval, dans sa préparation, qu'est-ce qui fait que ça vous plaît au point de se bouger comme ça? Qu'est-ce qui vous plaît là-dedans, là?
Qu'est-ce qui nous plaît, après, c'est... ça, je pense qu'il faut, venir voir pour...
il faut le croire, le vivre, pour le croire. Le croire.
mais ouais, en tout cas, c'est sûr que... un truc qui est vraiment excellent dans le carnaval de la Plaine Noailles, c'est que il y a c'est vraiment un espèce de défilé où le truc de renverser l'ordre, c'est quand même assez respecté, quoi. Enfin, ça a vraiment lieu, quoi. Il y a la manière de marcher dans les rues, la manière d'être dans les rues, elle est plus du tout pareille, quoi. C'est quand même ça qui fait son côté excellent. Et du coup, ça part de la Plaine, en général vers 15h, je crois, un truc comme ça. Et bon, il y a quand même beaucoup de gens qui boivent, ça c'est sûr. Mais il y a aussi des tonnes de minots qui sont tous déguisés, qui sont tous à fond, qui sont prêts, qui attendent ce moment-là depuis un moment, quoi. C'est marrant comment plein de moments, quand tu te... On avait aussi participé à la construction d'un carré montrant, et c'est assez marrant de voir comment à Noailles, par exemple, il y a des minots qui attendent ce moment-là, quoi, qui attendent vraiment ce carnaval avec des pétards, avec de la farine, avec des œufs de peinture, malgré que les œufs de peinture ont été interdits de manière... on sait pas trop de quelle manière, et finalement ils sont pas vraiment interdits, il y a encore des gens qui... parce que normalement au carnaval il n'y a pas de règles, quoi. Du coup il y en a qui quand même ramènent des œufs de peinture. Et du coup, en général, ça part de la Plaine vers 15h, donc tout le monde se regroupe. Souvent, il y a des batucada, il y a des gens qui chantent des chansons en occitan sur le carnaval aussi. Donc c'est quand même déjà un peu la fête. Il y a les dents au caramontran qui arrivent. Du coup, le caramontran, c'est une énorme structure en papier mâché qui est posée sur des palettes... palette avec des roulettes, quoi, qui est tirée tout le long du carnaval, qu'on traîne tout le long du carnaval, quoi, tout le long du défilé. Et elle est censée représenter ce qui te fait chier, quoi, ce qui te fait chier vraiment, en fait, assez simplement. Et du coup, c'est chaque année, c'est des images assez marrantes. Même des fois des histoires assez marrantes. Il y a une année, je crois, où ça a été un flic. Moi, j'y avais pas assisté. Ça avait été un flic, je sais plus si c'était avec Sarkozy ou un personnage politique comme ça, avec un déguisement de flic, donc qui était destiné à être cramé à la fin du carnaval et trimballé tout le long, donc humilié à farine, tout ça. Et normalement, le carnaval, il descend dans Noailles et il remonte à la Plaine. Et là, les flics avaient ressenti une certaine humiliation. Et du coup, on perquisitionnait le camion où il y avait le caramontran dessus, et parce qu'il était sur un camion. Ils l'ont perquisitionné le camion, ils l'ont ramené jusqu'au commissariat du panier, là. Et du coup, ça a fait qu'ils ont trimballé le caramontran dans toute la ville. Alors que normalement,
ils l'ont bien montré à tout le monde.
Ouais, ils l'ont bien montré à tout le monde, alors que normalement, ils devaient rester dans la Plaine Noailles. Et finalement, en voyant que bon, c'était pas, enfin, ne réussissant pas à justifier la perquisition de ce matériel un peu qu'on ne pourrait pas trop classer, et ben ils ont rendu le camion et le caramontran, donc il a réussi à faire son carnaval comme chaque année, mais qui a d'abord été trimballé
jusqu'au commissariat,
à peu près tout Marseille, jusqu'au commissariat, jusqu'à être rentré même dans le commissariat pour revenir enfin au carnaval. Du coup, voilà, chaque année c'est des y a quand même des idées assez marrantes, quoi. Chaque année donc souvent c'est un peu métaphorique quand même. Il y a des années où il y a des moments où c'est plus donc assez ciblé comme ça, avec des têtes de personnages politiques, mais il y a des années où c'est quand même plus métaphorique. Il y a eu une année où c'était donc le moment où toute la vidéosurveillance s'installait dans le quartier dans à peu près tous les quartiers du centre-ville, d'ailleurs. Donc ils ont installé des caméras quasiment à tous les coins de rue, et du coup c'était un cyclope, donc avec des yeux et avec un bras qui faisait un énorme fuck comme ça. Un bras articulé qui faisait un gros fuck, et du coup on a trimballé ce cyclope dans tout le long du parcours, quoi. Et chaque année, voilà, c'est quelque chose qui, voilà, c'est une image de quelque chose qui t'emmerde, quoi. Et donc il est trimballé depuis la plaine. On descend la rue d'Aubagne. On arrive à Noailles et on remonte à la plaine. Et tout le long, il y a plusieurs endroits qui sont définis où il y a des sacs de farine qui sont abandonnés à la véracité de tout le monde à peu près. Du coup, tout le monde éventre le sac de farine et s'en balance de partout dans la gueule. Et personne ne peut rester à l'écart, quoi. C'est vraiment impossible. Tu peux pas rester à côté du carnaval et pas prendre de farine. T'es obligé d'y participer, quoi. À partir du moment où tu t'en prends un peu, après tu décides de te venger, donc d'aller chercher de la farine, d'en lancer encore plus. Et donc il y a plusieurs spots comme ça où il y a des sacs de farine qui sont entreposés pour ceux qui n'ont pas de farine. Et sinon il y a plein de gens qui prévoient et qui ont déjà fait le carnaval depuis plusieurs années, donc ils viennent déjà avec leurs sacs de farine pour pouvoir en jeter à peu près tout le long.
D'ailleurs il y a un appel qui dit ramenez vos sacs de farine.
Et après on descend jusqu'à Noailles. À Noailles, là, c'est le moment où il y a... Souvent, c'est le moment où il y a une grosse batucada qui nous remonte jusqu'à la plaine avec le char parce que la pente, elle est un peu raide, quoi. Du coup, il faut une musique plus énergique. Et après, à la plaine, c'est le moment où il y a le procès. Donc, soit il y a un juge qui... Quelqu'un qui se sent l'âme du juge ou qui... Et qui essaye de faire un procès. En général, il y a plein de gens qui montent sur la scène. La scène, c'est un espèce d'arrière de camion. Du coup, il y a plein de gens qui montent dessus et qui décident de faire un procès eux-mêmes. Et finalement,
on énumère les chefs d'inculpation un par un.
Ouais, les chefs d'inculpation.
Ouais, c'est un peu marrant parce que c'est un peu le moment de retournement aussi où le tribunal, enfin à mes yeux, en tout cas, ça reste un grand théâtre où c'est absurde. Et là, du coup, t'as un espèce de retournement où c'est la foule qui devient le tribunal. Et du coup, c'est assez drôle. Et souvent, c'est assez marrant parce que le juge, même si il y a un peu un renversement de rôle, le juge reste le juge et on le laisse peu parler en général. Il essaye de vouloir juger la situation. On entend d'abord comment ça s'appelle celui qui
l'avocat de la défense.
L'avocat de la défense, ouais. Et du coup, assez vite, tac, 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 paf, et on entend tout le monde crier à l'unisson « On le brûle, on le brûle, on le brûle !»
Il y a même une année où des gens qui étaient un petit peu proches de l'organisation ont décidé, parce qu'il y avait trop de flics, qu'il fallait pas brûler Scaramontran, quoi. Sauf que c'était pas possible. Évidemment, les gens... Personne n'attend pour faire... Enfin, personne ne donne d'ordre à ce moment-là, quoi. Et sûrement que les gens qui ont décidé ça avec la police savaient très bien que de toute façon, ils seraient brûlés. Et que du coup, c'était pas la peine de négocier. Et voilà, du coup, en général... Et après, ensuite, une fois que le carat montant crame, ça danse autour et ça, voilà, ça continue à faire la fête jusqu'à plus soif.
Et pour moi, c'est peut-être un des plus beaux moments, c'est ce moment où tout le monde se met à danser comme ça autour du feu, comme des fous, et puis on alimente le feu parce que tant qu'il y a du feu, bah, on peut danser et on continue. Et il y a des minots, il y a des vieux, il y a des jeunes, il y a des noirs, il y a des blancs, il y a tout le monde. Et tout le monde s'éclate et tout le monde danse. Et c'est vraiment un super beau moment et le feu nous réchauffe parce qu'en général, le 15 mars, une fois qu'il fait nuit, il ne fait pas forcément très 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 chaud. Et non, c'est agréable feu, comme ça de voir toute la population qui se réchauffe le cœur mutuellement autour du feu, quoi.
Moi, je trouve que le feu, c'est génial dans ces moments de carnaval et que ce serait vraiment... Enfin, c'est vraiment important, quoi. Finalement, dans quel moment on a, nous, pour faire un feu gigantesque dans notre ville qui a été... C'est pareil, on a plus la place de faire ça. Je veux dire, même un barbecue, maintenant, qu'on essaye d'installer à quelques endroits, ça peut se barrer en cacahuète, ça nous est déjà arrivé, d'ailleurs. Et de se dire, en fait, là, c'est le moment, tu vois, et vu qu'on est plein, faut en profiter aussi de se dire... on se donne l'impression que c'est vrai. Enfin, on se donne l'impression. En tout cas, on se montre chacun que c'est possible que cette ville, elle soit à nous ce soir-là, quoi. Et c'est dense, c'est ça, quoi. C'est des trans, presque. Il y a un truc qui est drôle, tu vois, justement, où le carnaval, c'est un truc un peu ancestral, qui appartenait à un rituel et tout ça, etc. On pourrait avoir l'impression que nous, dans nos histoires d'aujourd'hui, il y a peu d'écho à ces rituels, à ces trucs-là. Et que finalement, le carnaval montre bien qu'il y a quelque chose, qui n'est pas mort, quoi. Qui fait que, oui, il y a un truc de trans qui nous éblouit dans le feu, qui nous... je ne sais pas comment on dit, tu vois, mais ça fait détaler plein de trucs, quoi. C'est trop bien.
Mais c'est aussi une célébration, ouais, c'est aussi dans la manière dont il est constitué, quoi, dans le fait de ce carnaval il est quand même assez constitué. Non, mais le carnaval, ce carnaval là, il est quand même assez constitué de, il est quand même assez fidèle à la célébration de la folie, de l'ivresse, du désordre, qui vient s'opposer justement à un esprit, tu vois, un esprit de contrôle, où tout est contrôlé, quoi, des espaces où tout est contrôlé, tout est pensé de manière rentable, de manière avec des envies qui sont pas forcément qui sont pas forcément celles de tout le monde, quoi. Et du coup elles sont obligatoires, quoi. Et du coup le carnaval, c'est vraiment un moment où toutes ces choses là bah, tu les repousses, quoi, et chacun invente son désir de sa manière de participer au carnaval, quoi.
C'est marrant de voir ça aussi, quand on revenait tout à l'heure sur les origines du carnaval, que pendant les carnavals, donc il y a plusieurs carnavals qui se passaient, je me souviens plus, je pourrais citer là, mais Langbourg, je sais plus où en fait ce qui se passait, c'était vraiment des moments non marchands, en fait. Il y avait vraiment un truc assez accentué là-dessus, quoi, dire que il y avait carnaval, défilé, tout le monde était déguisé, il se passait à peu près n'importe quoi, et les commerçants balançaient des clopes, balançaient de la bouffe, même certains premiers carnavals, c'était juste on venait pour boire et manger. Mais c'est pareil que tout le monde ramenait de ça partout, il y avait un truc vraiment on n'est pas là pour se faire du bise-bise, quoi. Et ça, c'est un truc, il y a pas beaucoup de fêtes, tu vois, et les fêtes, elles se sont fait un peu anéantir là-dedans, quoi. Et c'est ça qui est assez chouette avec ce carnaval de Noailles-la-Plaine, c'est sous-entendu tout ça, on n'a pas envie de ça, tu vois, il y a quelque chose qui passe, et c'est pas forcément toujours hyper criant, c'est pas une manifestation politique, quoi, c'est pas une manif, on est là avec des banderoles, non, c'est un déferlement, c'est le moment où sortent nos démons, ce serait génial si ça pouvait se matérialiser. On deviendrait des personnages immensissimes au-dessus de la ville. On la dévorerait réellement. Il nous manque pas grand-chose.
Mais c'est marrant parce qu'à Montpellier, il y a un carnaval qui continue à faire ça. Qui continue donc avant le grand carnaval du soir de Montpellier, qui est quand même assez connu et qui est assez bien. Dans un quartier, ils font ça depuis quelques années. Donc ils passent à plein déguisés. Donc avec les minots, avec pas mal de... ils sont en général... Enfin, moi, la fois où j'y suis allé, il y avait à peu près 100 personnes, 150 personnes. Et donc, on marche dans un quartier et il y a de la musique. Et en jouant de la musique, on sonne à toutes les portes et on crie à toutes les fenêtres d'envoyer de la nourriture. D'envoyer de la nourriture et de nous donner tout ce qu'ils veulent, qu'on va tout prendre. Et du coup, les gens, ils envoient par la fenêtre de la nourriture. Et du coup, le caddie se remplit. Et au bout d'un moment... plus de place, faut prendre un deuxième caddie. Deuxième
puis après, caddie c'est festin commun, quoi.
Et après, tout est mis sur une place et on mange tous ensemble. C'est assez marrant.
C'est ouais, c'est ça. Je crois qu'il y a cette idée du commun qui nous plaît bien dans le carnaval, en fait. Si tu nous demandais pourquoi on se bouge tant ou quoi que ce soit, c'est que peut-être cette idée du commun qui disparaît un peu, justement, par tout ce qu'il expliquait tout à l'heure, Mathieu, là. Et du coup, il y a ça. Il y a le commun, tu vois, l'idée de se retrouver, de fabriquer des choses ensemble et de se dire que c'est possible, en fait, et que ça puisse prendre des forces. Et que ça puisse aussi prendre des forces qui viennent aussi attaquer le monde qui fait force, finalement, et qui a plutôt, lui, tendance à écraser tout ce qui contient en lui plein de joie et de débordement, tu vois. De pas se contenir, de pas savoir, quoi. D'aller vers l'inconnu.
Ouais, c'est exactement ce que tu disais. C'est vraiment ce commun. Et en plus, comme tu disais, c'est pas une manif, c'est du commun. On se met en commun, pourquoi ? Pour faire la fête, quoi. C'est du commun vers la joie. C'est vrai que c'est ça qui est,
ouais, mais qui est excellent. Encore une fois, c'est aussi standard. Une certaine fête, quoi. C'est aussi un endroit où on peut pas... C'est pas une manif, mais ouais, j'aurais du mal à dire que c'est aussi une fête. Il y a aussi quelque chose qui est plus loin que la... Enfin, qui est autre chose que la fête, quoi. C'est vraiment une fête. Avec un certain, ouais, une certaine forme de rituel.
Là, tu dis ça parce que la fête, justement, elle a été, on a un peu bu son sens, quoi. Son sens dionysiaque, justement, de Dionysos, de l'ivresse, de la folie, rien. Il a été bu par, je pense, vulgairement, le capital, quoi. Donc, quand on parle fête, ça donne envie de se dire, mais en fait, qu'est-ce que la fête, ou qu'est-ce qui nous reste de la fête, et qu'est-ce que provoque la fête, en fait? Parce que la fête, je crois, en fait, en fin de compte, c'est pas juste un moment d'ivresse et de n'importe quoi. C'est aussi un moment, justement, de commun. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai déjà lu ça, je sais plus où, mais on dit qu'une vraie fête, ça dure jamais un jour, ça dure toujours plusieurs jours, parce que en plusieurs jours on a le temps de tisser des liens, En un jour, parfois, ça va trop rapide. Et on remarquera que peu, il n'y en a pas beaucoup des fêtes faites par les institutions, qui sont des fêtes qui durent sur plusieurs jours, où tu dors ensemble finalement, où il se passe plein de choses. Quoi. Je pense que c'est ça, on a envie de dire que oui, le carnaval, c'est une grande fête. Et c'est vrai que ça donne envie de se dire, mais qu'est-ce que la fête aujourd'hui, tu vois? Et moi, je crois que la fête aujourd'hui, c'est, si on devait se réapproprier ce truc-là, ce serait ce moment où en fait, on met en commun tout ce qu'on a et on bouleverse ensemble, parce que c'est ce bouleversement-là que tu vois que on pourra dire, mais c'était une fête parce que j'ai été bouleversée ou parce que je me suis dépassée ou ça s'est dépassé ou je sais pas comment on dit quoi. Enfin, je pense, j'ai l'impression que la question de la fête, elle est compliquée à traiter quoi, parce que elle est mangée par plein de petits trucs quoi. Par un gros truc. Comment dire?
Bah du coup on passe le. Ouais, on a un petit passage sur justement un procès. Je sais plus si c'est celui de l'année dernière ou d'il y a deux ans.
Je crois que c'est celui d'il y a deux ans. Ouais, peut-être on peut dire aussi que par rapport au procès, donc on vous attend tous pour le carnaval, même si vous venez de, je sais pas moi, de Tunisie ou de, je sais pas, il y a quoi comme autre ville en France que Marseille. De partout, venez, et aussi le moment du procès, c'est le moment où on peut tous ensemble crier haut et fort, parce que ce qui nous manque aussi dans ce monde, d'avoir les fêtes, etc., qu'on disait tout à l'heure, c'est aussi les crieurs. Ils sont passés où, nos crieurs de rue, quoi, ceux qui sont là et qui hurlent tout ce qui va pas, ou qui hurlent tout ce qu'ils aiment, ou etc., etc. Donc ça nous manque bien, et jour de carnaval, c'est le moment de venir crier tout ce qu'on a sur le ventre, sur le cœur, dans les chaussures, je sais pas.
Et c'est vrai que si vous venez d'ailleurs que de Marseille, et que vous souhaitez voir vraiment le cœur de Marseille, c'est parfaitement le jour où venir, parce que ce carnaval où tout le monde se mélange et où il y a une sorte d'esprit un peu de folie comme ça, c'est, enfin, pour moi qui suis né ici, c'est vraiment le cœur de notre ville, quoi.
Ouais, t'es né ici. on vous passe cet extrait du procès et on vous invite à venir tous avec tout ce que vous avez envie de crier à ce moment-là. Quoi qu'il arrive, je compte bien à ce qu'on brûle ce caramontran, dont on ne vous dit pas comment il est. Mais par contre, ah oui, un des trucs qui n'a pas été dit. Par contre, si vous avez envie d'aller participer à la construction du caramontran, ça se passe au Mille Pattes. Donc c'est un peu, vu que c'est une organisation assez étonnante, on n'a pas vraiment d'horaire exact, mais je pense que toute la semaine prochaine, tous les après-midi au Mille Pattes, il y aura pour venir continuer à construire le caramontran. Plus on sera, plus il sera gros, plus il sera beau.
Donc le Mille Pattes, rue d'Aubagne, dans le premier. Au milieu de la rue d'Aubagne à peu près, j'ai pas le numéro, mais au milieu de la rue d'Aubagne à Noailles, premier, Marseille.
Peut-être pour continuer aussi d'autres petits trucs qu'on n'a pas dit, mercredi de la semaine du 9 au 14, je sais pas si ça tombe quand le mercredi, mais à Noailles justement l'après-midi, je pense que ça va se passer vers entre 15 et 20 heures, il y aura peut-être des projections, des photos des carnavals d'avant. C'est aussi pour réinviter tous les gamins de Noailles, donc qui avaient une forte présence dans ce carnaval-là. Et vu que le Mille Pattes a fermé, etc., etc., ce serait bien dommage de perdre tous ces gamins qui avaient une énergie aussi hyper chouette autour de ça. Donc il y aura, pareil, goûter, reprojection du carnaval pour réinviter tous les gamins de Noailles à venir. Donc ce sera mercredi, le mercredi qui se trouve entre le 9 et le 14 mars.
Le 11, je crois, du coup, le si je dis 11. Pas de bêtises.
Ouais, il y a moyen que ce soit le 11. Il y a ça, et puis voilà, et puis on vous invite toujours pour dire à repasser chez Jadis Igor pour faire des masques.
Allez, ben on écoute le dernier son, donc sur le procès.
We'll be right back. publics qui vont de Marseille aux Ruches.
Concernant l'utilisation de l'espace public, le réveil fut brutal dès le début de 2014. L'année culturelle nous avait vendu une approche ludique et festive de la ville et disait faire de l'espace public le contexte, le prétexte et le texte de la création artistique. Mais la fête était finie, et marchands et forces de l'ordre entendaient bien reprendre les rues.
Et voilà, donc on arrive à la fin de ces actualités. Un petit rappel donc du programme du Carnaval de la Plaine.
Ouais, donc du coup c'est le dimanche 15 mars. Dimanche 15 mars, d'abord pour commencer vous êtes invités à une espèce d'auberge espagnole où en gros ça veut dire venir manger tous ensemble sur la plaine à partir de midi, 13h30 pardon. Non alors attends, non c'est ça, on mange tous ensemble à midi, à 13h30 il y a une intervention chantée et après le départ du défilé c'est 15h, voilà.
Voilà, donc soyez nombreux à la plaine dimanche prochain le 15 mars. Cette émission sera toujours disponible sur le site de Radio Zinzine et sur le site de radiobam.org pour la réécouter. Merci beaucoup à vous, Mathieu, Léo, Dino, pour d'être venus. Merci Damien, merci Luc, merci à nos auditeurs fidèles, on l'espère. Restez branchés au poste et on vous retrouve la semaine prochaine. Allez, salut, bon week-end.